Salut Raphaël.
Salut.
Je pense qu'on avait perdu pendant une demi-seconde.
c'est la joie à la fois du direct et de la distance.
OK, parfait. Écoute, parle-moi de, évidemment, aux États-Unis comme au Canada, le nombre de demandes d'assurance-emploi là, qui a explosé.
Écoute, c'est spectaculaire. On manque de mots pour décrire l'ampleur de la situation parce que, en fait, une ampleur de la sorte, on n'en a jamais vu. Je t'explique ce qui se passe présentement aux États-Unis. La semaine dernière, on avait eu environ 3 millions, en fait, un peu plus de 3 millions de demandes d'assurance-emploi qui avaient été faites. Là, les chiffres pour cette semaine viennent de sortir aujourd'hui. On est à plus de 6,5 millions. Tu fais le calcul, là, c'est 10 millions en deux semaines. 10 millions, ça peut avoir l'air gros, mais ça n'a pas l'air aussi gros que quand on le met en contexte. Voici le contexte. 10 millions de demandes d'assurance-emploi aux États-Unis, c'est autant en deux semaines que le total pour les six premiers mois de la grande récession de 2007-2008, qui était, on le rappelle, jusqu'à ce moment-là, en tout cas, là, la pire crise économique depuis la grande dépression de 1929. Autrement dit, autant de demandes en deux semaines qu'en six mois de la dernière crise, qui était la pire crise de nos vies. Et c'est le plus haut sommet pour une seule semaine, la semaine qui vient de se conclure. Là, c'est la pire, et encore là, il n'y a pas de commune mesure. Le sommet le plus élevé avant maintenant, c'est à peu près 600 000. C'est 10 fois plus élevé que ce qui était le sommet le plus élevé de l'histoire jusqu'à maintenant. T'sais, fait qu'on manque de mots pour décrire l'ampleur de la situation. Et le pire, et sans encore une fois vouloir en ajouter, puis en rajouter, puis en rajouter, il y a quand même ceci à garder en tête. Ce total-là n'inclut pas ce qu'on appelle les contracteurs indépendants, les travailleurs autonomes. Ça n'inclut pas non plus les gens qui ne travaillaient pas depuis assez longtemps pour se qualifier. Et ça n'inclut pas non plus les gens qui ont quitté leur emploi en guillemets volontairement parce qu'ils devaient s'occuper de leurs enfants dont l'école a fermé. Tu sais, fait que c'est absolument... encore une fois, je manque de mots. J'ai pas de mots. J'allais t'ajouter un autre qualificatif. La réalité, c'est que j'en manque. C'est tout simplement gigantesque.
OK, les deux plus importants du sud-est des États-Unis là, qui montent dans le grand train du confinement.
Oui, il y en a plusieurs qui vont dire qu'il était temps. On parle de la Floride, on parle de la Géorgie. Dans les deux cas, il y en a aussi beaucoup qui vont dire que c'est pas des hasards. On parlait d'États qui sont en fait gérés par deux gouverneurs républicains proches alliés de Donald Trump. Ron DeSantis, un nom qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup mentionné dans les médias au courant des dernières semaines, qui, écoute, jusqu'à il y a 48 heures, disait, et je le cite, « Les gens de mon État vont faire ce que, bon diable, ils ont envie de faire. » Avant de finalement se rétracter et dire, ben finalement, on va faire un shutdown, confinement obligatoire pendant au moins 30 jours. Et il s'est fait emboîter le pas quelques 24 heures plus tard par Brian Kemp, le gouverneur de la Géorgie, qui lui, depuis le début de la journée, fait parler et surtout rire de lui pour des raisons assez évidentes qu'on va entendre ce qu'il a déclaré lors de son annonce de confinement obligatoire. On écoute ça et je te traduis après coup.
What we've been telling people from directives from the CDC for weeks now that if you start feeling bad, stay home. Those individuals could have been infecting people before they ever felt bad. Well, we didn't know that until the last 24 hours.
Vas-y, traduis.
Écoute, ce que le gouverneur de la Géorgie, qui on le rappelle, avant d'aller plus loin, là, est un état majeur. Là. C'est un état en termes de population qui est comparable au Québec. Là. C'est pas le Vermont ou le Montana. Là. Un état extrêmement important. Ce qu'il est allé dire, c'est que on ignorait jusqu'à il y a 24 heures que des gens asymptomatiques pouvaient être contagieux et transporter le virus.
Mais Raphaël, écoute, comme je dis souvent, on bâtit l'avion à mesure qu'on le fait voler en matière de coronavirus. On apprend toujours beaucoup, mais ça fait plus que 24 heures qu'on sait que les gens asymptomatiques qui n'ont pas de symptômes peuvent le transmettre.
Tu sais, honnêtement, là, il y a des choses, je pense, qui nous tous, là, nous surprennent, nous prennent de court à tous les jours, pour pas dire à toutes les heures depuis le début de cette crise-là. Je vais vous dire très sincèrement, j'étais surpris d'entendre un élu aussi important que ça dire quelque chose comme ça. On peut avoir différentes perspectives, différentes opinions sur comment gérer ou non la crise, mais d'aller dire, et ça avait l'air sincère, c'est ça le pire, devant les caméras de son État entier, qui ne savait pas, que son équipe ne savait pas jusqu'à il y a 24 heures, quelque chose qui est connu par, écoute, presque la planète entière depuis des semaines.
Non, mais
ça aussi, on manque de mots un petit peu pour
mais vraiment, tu sais, Raphaël, on le voit aussi avec la Chine. La Chine n'aurait probablement pas, on en parlait, toi et moi, la dictature chinoise, puis on en a parlé un peu plus tôt avec Guy Saint-Jacques, l'ancien ambassadeur canadien en Chine. fort probablement que la Chine n'a pas fait preuve de transparence, fait que ça a comme faussé les données, ça a faussé l'interprétation des données au moment où les autres pays ont voulu se préparer. Parfait. Là, tu peux dire, ça, on ne savait pas ça. Le fait que les gens qui n'ont pas de symptômes peuvent transmettre la maladie, hey, c'est connu.
Depuis deux, trois, quatre semaines.
Il n'y a aucune défense. Encore une fois, le fait que non seulement ça soit peut-être l'opinion ou la position privée du gouverneur, mais qu'il le dise ouvertement de la sorte et qu'il n'y a personne dans son équipe qui lui a dit, ben écoute, c'est peut-être pas une bonne idée finalement de sortir avec ce genre de déclaration-là. On peut être pardonné, disons, d'avoir la mâchoire qui nous tombe à terre.
Ouais. Raphaël, je me demande comment ça va finir dans ces deux États-là, la Floride et la Géorgie. La Géorgie, là, c'est 56%. Pardon, la Floride, c'est 56% de la population canadienne. Et à l'heure actuelle, ouais, il y a à peu près autant de morts en Floride qu'au Canada. Avec une population de 21 millions de personnes. Ici, on est 38 millions. Puis tu sais, les mesures de confinement, puis la participation sociale à ce projet-là n'est pas la même qu'ici, là.
Non, c'est vrai. Puis écoute, on l'oublie, mais ça a l'air de rien. C'est le troisième État en importance aux États-Unis, là, après la Californie et le Texas.
Il y a beaucoup de personnes âgées aussi en Floride, il faut le dire aussi. Là, c'est un lieu de retraite, là.
Écoute, c'est un État qui est disproportionnellement âgé en plus de ça. Tu sais, je ne suis pas expert à ce niveau-là, fait que je me prononcerai pas par rapport à la nature saisonnière du virus, par rapport à son l'impact de la température sur le virus. La seule chose que je vais souhaiter pour la santé et la survie des Floridiens, c'est que la chaleur ait un impact négatif sur le virus, parce que autrement, effectivement, il y a pas mal de monde qui risque d'être assez mal barré en Floride et en Géorgie également, tant qu'à ça.
Là. OK, le couronnement de Joe Biden, couronnement anticipé à la Convention nationale démocrate, là, c'est officiellement reporté.
Bien, c'est reporté d'un mois. M. Biden l'avait lui-même dit là, publiquement qu'il souhaitait que ça soit reporté, mais en même temps, on peut vraiment se poser des questions, à savoir, OK, présentement, c'est reporté d'un mois. Toi-même, tu dis souvent, Patrick, tu l'as dit encore tantôt, comment on pilote l'avion en le construisant un petit peu. Bien, ça, c'en est un sacré bon exemple. Parce que là, on reporte ça au mois d'août. Mais qu'est-ce qui garantit qu'au mois d'août, on va vouloir aller de l'avant? Gardons en tête aussi que la Convention républicaine est prévue pour le mois d'août. Là, à ce niveau-là, on n'a pas de changements qui sont prévus pour l'instant. Mais pour ceux qui sont peut-être moins familiers avec c'est quoi une convention nationale aux États-Unis, bien, c'est pas compliqué. Là, c'est l'équivalent d'un Centre Bell rempli de monde, 20-25 000 personnes sur 4 jours. Est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui pense à l'heure actuelle que ça pourrait être fait actuellement, présentement? Évidemment que non. Est-ce que ça va pouvoir être fait dans 4, dans 5 mois?
On verra.
On le verra, exactement.
Parfait. Merci beaucoup, Raph. On se reparle demain. Presque 16h58. On va s'arrêter pour une pause nouvelle. Philippe, merci d'avoir été là.
C'est un plaisir.
Au retour, juste avant nos chroniqueurs, une histoire très, ma foi, réjouissante. Jean-Marie Lamontagne, propriétaire du Quality Inn de Mont-Joli en Gaspésie, mais qui offre aux camionneurs un accès gratuit aux douches de l'hôtel et à plein d'autres petits services pour ces gens qui sont, ma foi, essentiels ces jours-ci. 16h58.